Quatrième dimension, c'est...
À Montpellier, sur Internet, à la radio, sur votre téléphone et en DAB+, il est 18h sur Radio Aviva.
Radio Aviva, le flash local.
Bonjour à toutes et à tous dans l'actualité de ce samedi 2 août. Faute de repreneur, l'horlogerie Alexis Duguay, rue de la Loge à Montpellier, tirera définitivement le rideau de fer le jour où son propriétaire prendra sa retraite. Aucun entrepreneur n'a en effet racheté l'affaire, les clients potentiels ayant finalement abandonné les négociations faute d'argent ou de salariés à embaucher. Et pourtant, l'horlogerie dispose depuis 28 ans d'une clientèle fidèle, réunie autour de marques symboliques. Dans une interview accordée à nos confrères du Midi Libre, Alexis Duguay a exprimé ses regrets de voir s'effacer son activité. Le 10 septembre à 10h aura lieu l'ouverture du très attendu magasin Primark à l'Odysseum. Il faut dire que le chantier a connu des débuts difficiles en 2019. La crise du Covid et les redoutables retards de chantier ont reporté l'ouverture du magasin de prêt-à-porter à prix ultra cassé. Si l'ouverture était prévue avant 2022, les futurs clients ont dû patienter près de 4 ans. Primark n'est d'ailleurs pas la seule enseigne à s'implanter dans le centre commercial. La marque sera suivie de Quick et de Waffle Factory. Cette année, le musée Fabre fête ses 200 ans. Et qui mieux que le mythique musée du Louvre peut aider l'institution à souffler ses bougies? C'est ainsi que, tout à fait récemment, les deux musées ont officialisé un partenariat. Une amitié qui ne date pas d'hier, dépôts, prêts et échanges d'œuvres sont fréquents. Deux expositions communes sont prévues. Une première au cours de l'été 2027, elle portera sur les antiquités orientales. La seconde, plus symbolique, marquera la fin des travaux d'extension du musée Fabre en 2030. Lors d'une conférence de presse, Michael Delafosse, maire de Montpellier, n'a pas manqué de saluer le travail de Justine Trier, directrice du musée depuis 4 ans. À Nîmes et Bagnols-sur-Cèze, on a appris que deux agents de la protection judiciaire de la jeunesse ne verront pas renouveler leur contrat. Et ce, à un moment où trafic et violence impliquent de plus en plus de mineurs. La ville du Gard en est d'ailleurs venue à imposer un couvre-feu pour les moins de 18 ans. Ajoutons que la suppression de 3 postes d'éducateurs dans les quartiers prioritaires indigne les syndicats et qui, quant à eux, dénoncent l'abandon de la lutte contre le narcotrafic et la manipulation de la jeunesse. C'est la fin de ce Flash Info du samedi 2 août. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous souhaite un excellent week-end sur Radio Aviva.
La météo dans l'Hérault.
Bonsoir à tous, c'est une belle soirée qui vous attend dans l'Hérault. Note 23 degrés à Saint-André-de-Sangonis et 24 à Lunel. On attend un pic de chaleur de 23 degrés durant la nuit à Montpellier. Demain dimanche, le soleil brillera sur tout le territoire. Il fera 25 degrés le matin à Saint-Mathieu-de-Trévier et 30 pour l'après-midi. Pensez à votre bouteille d'eau et passez une très belle soirée sur Radio Aviva.
Radio Aviva, le partenaire de votre été.
sur Radio Aviva.
C'est une ville qui porte résolument la transition écologique.
Je voudrais savoir qu'est-ce que vous entendez par écologie.
Moi, ça m'inquiète pas plus que ça, le réchauffement climatique, parce que je suis pas écolo.
50 degrés à l'ombre, la transition écologique en Occitanie sur Radio Aviva.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 50 degrés à l'ombre, le podcast de la transition écologique et sociale en Occitanie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi essentiel qu'inspirant, le compost et la valorisation des biodéchets. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Chloé Torrent, porte-parole de l'entreprise Les Alchimistes. Bonjour Chloé et bienvenue dans l'émission, comment allez-vous ?
Bonjour, ça va très bien, merci.
Alors, Les Alchimistes, c'est une entreprise qui collecte et valorise les déchets organiques pour les transformer en compost. Vous êtes basé à Montpellier et contribuez à la réduction des déchets alimentaires tout en sensibilisant les habitants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus concrètement en quoi consiste votre activité et comment est-ce que vous vous organisez pour réaliser cette mission ?
Alors concrètement, aujourd'hui, dans nos poubelles, on retrouve 30% de déchets alimentaires qui sont composés en majorité d'eau et qui finissent en incinération ou en enfouissement. Donc concrètement, on essaye de brûler des déchets alimentaires ou de les enterrer, ce qui a beaucoup d'impact écologique négatif. Et donc nous, les alchimistes, on propose de mettre en place le tri des déchets alimentaires pour qu'ils soient séparés des ordures ménagères et qu'ils soient valorisés en compost.
Comme vous le disiez, les biodéchets représentent encore un tiers de nos déchets. Seulement depuis le 1er janvier 2024, une loi existe et on est obligé de les trier à la source pour réduire cet impact. Donc les professionnels sont obligés de le faire, les collectivités également. Vous, quel rôle vous avez auprès de ces acteurs-là ?
Alors nous, on accompagne effectivement les professionnels, donc des hôtels, des restaurants, des établissements de santé, pour leur expliquer comment mettre en place le tri des déchets. L'objectif, c'est pas de leur rajouter des contraintes, de pas rajouter du temps de travail, puisqu'en général, le personnel est déjà très occupé, et quand on leur parle du tri des déchets, ils pensent tout de suite que ça va leur rajouter des contraintes. Donc on regarde comment ils travaillent, on essaye de comprendre quelle va être la quantité de déchets qu'ils vont produire, et leur proposer un scénario de collecte, c'est-à-dire combien de bacs ils vont avoir besoin, et qui va être le plus simple pour eux pour qu'on puisse mettre en place ce tri déchets alimentaires. On va aussi prendre le temps de les sensibiliser sur la démarche, c'est-à-dire que juste déposer un bac, souvent ça ne fonctionne pas, parce que les gens ne comprennent pas que vont devenir les déchets. Mmh. Et malheureusement, encore aujourd'hui dans la région, beaucoup disent, de toute façon ça sert à rien, c'est remélangé, j'ai vu faire telle personne, tel acteur, donc moi le tri, voilà, je m'en fiche, parce que en fait je sais que ça sert à rien. Donc nous on doit expliquer, rassurer sur le fait que nous, les alchimistes Languedoc, quand on collecte des déchets alimentaires, ils vont aller sur une filière de compostage à Montpellier, et in fine pour nourrir des sols agricoles. Et donc, en racontant vraiment le cycle de ces déchets, donc on est plus sur une logique linéaire, où les déchets vont être enfouis ou incinérés, on essaie de recréer cette boucle organique, les gens se disent, ok, ça a du sens, donc pourquoi pas, on va essayer. Ils se rendent compte que finalement, c'est pas très compliqué, ça rajoute un bac poubelle dans le local poubelle. Nous, on vient, on collecte ces bacs pleins, on les échange contre des bacs vides, ils ont pas besoin de les nettoyer. Et l'autre point aussi hyper important, c'est qu'on va leur donner des informations hyper précises sur ce qu'ils jettent, c'est-à-dire les quantités de déchets alimentaires et la qualité du tri. La quantité, ça veut dire, parce que quand on parle de déchets alimentaires, on parle de nourriture. L'objectif pour nous, c'est pas de collecter le plus possible de nourriture, c'est de faire en sorte que les déchets alimentaires soient triés, mais surtout que les cantines scolaires, les cantines d'entreprise se rendent compte de quelle quantité ils jettent, pour ensuite se dire, ok, comment on peut faire pour réduire et ensuite mesurer ces efforts.
Mais concrètement, ça se traduit comment alors cet accompagnement ? Vous prévoyez des temps d'échange avec les collectivités, les restaurants, les cantines, les enfants aussi peut-être sont mêlés à ces actions ?
Oui, alors par exemple sur l'agglomération du Pays de l'Or sur laquelle on collecte les 20 écoles et collèges, on va venir dans chaque établissement avec les consignes de tri pour expliquer qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut pas mettre. On va venir avec du compost pour montrer concrètement à quoi ça ressemble et à quoi ça sert. On peut faire des jeux, on a travaillé notamment sur le FIS, Festival de Sports Extrêmes à Montpellier depuis 3 ans, où là on va faire des sensibilisations auprès du grand public. En fait, on va adapter notre discours, adapter nos outils pédagogiques en fonction du public, en fonction du temps qui nous est imparti. Quand on est dans un restaurant, l'équipe qui est en cuisine, elle a pas beaucoup de temps, donc on va faire une sensibilisation hyper synthétique. Et quand on a plus le temps, là on peut développer des animations un peu plus élaborées.
Et justement, après toutes ces actions de sensibilisation, est-ce que vous voyez une évolution dans les mentalités, dans les comportements du public que vous avez sensibilisé?
Oui, alors à plusieurs niveaux. Déjà, nous, au-delà de du poids des déchets qu'on pèse systématiquement, on va noter la qualité du tri. Donc, on est capable de dire auprès du producteur de déchets, est-ce que ça a été bien trié? Est-ce que dans nos bacs, on retrouve que des déchets alimentaires ou est-ce qu'il y a des indésirables, des pots de yaourt, des cuillères, du plastique, du carton? Et donc, comme on suit de manière très fine cette qualité du tri, on prévient le client qui va ensuite pouvoir regarder en interne qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas très bien, comment on peut améliorer les choses. Et aussi, il y a un aspect, on va dire, un petit peu de suivi qui fait que quand on a des retours positifs sur la qualité du tri est bonne, continuer comme ça, ça aide. Et à l'inverse, voilà, on peut réagir en fait très vite.
Et concrètement, si on contrevient à ces obligations de tri, qu'est-ce qu'on risque en tant que restaurateur par exemple, ou bien même en tant que citoyen?
Alors, officiellement, la loi, elle parle de 75 000 euros d'amende et plusieurs années de prison.
Okay.
Donc, après, c'est comme beaucoup de choses, quand il y a une réglementation en place, il y a le principe du contrôle, qui va contrôler, quand. Nous, on n'a pas envie de convaincre les gens. On sait qu'on n'arrivera pas à convaincre les gens via cet aspect d'obligation réglementaire. On va dire que c'est le dernier argument pour pas mal d'acteurs, malheureusement, dans certains secteurs d'activité, c'est assez criant. Dans d'autres secteurs d'activité, vous avez des restaurateurs en centre-ville qui sont hyper contents de le faire, même si c'était pas obligatoire, ils le feraient quand même. Donc voilà, ça nous a beaucoup aidé en début d'année, le 1er janvier 2024. C'était vraiment la dernière échéance pour tous ceux qui reportaient le sujet. Et on va dire que voilà, 70% de nos clients, peut-être au moins une belle majorité, ils le font parce qu'il y a cette obligation réglementaire.
Merci Chloé. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après dans 50 degrés à l'ombre sur Radio Aviva.
Aujourd'hui je suis sans nouvelles, j'ai pas de message. On écoutait Aznavour ou Aretha Franklin, mais bon tranquille. J'commence à m'y faire, j'avance et j'passe des caps. Ton regard vaut plus que toutes les caméras. Toujours dans mon cœur, mais t'es plus dans mes bras. J'm'ennuie, mais bon tranquille. J'aurais pu t'aimer, t'aimer comme ça, mais j'ai du mal à aimer, aimer comme toi. Mais bon, y'a plus d'intérêt si j'suis plus le seul à t'aimer. Même si j'me dis que personne ne peut t'aimer comme moi. J'aurais pu t'aimer, t'aimer comme ça, mais j'ai du mal à aimer, aimer comme toi. Mais bon, y'a plus d'intérêt si j'suis plus le seul à t'aimer. Même si j'me dis que personne ne peut t'aimer comme moi. Elle me disait tout va peiner, peiner. Pourquoi je l'ai laissé seul? Elle voulait m'apprendre à aimer, mais moi je n'apprends que mes erreurs. Je passais la nuit à traîner et reste solo pendant des heures. Je te fais genre que tout va peiner, peiner. Mais bon, en vrai, j'ai le seum. J'ai le sentiment qu'elle m'évite. Au final, c'est tout ce que je mérite. 3h du mat dans la street, mode automatique, je fais des tours sur le périph. Y'a comme une ambiance électrique, je crois que c'est gravé dans ma génétique. 3h du mat dans la street, mode automatique, je fais des tours sur le périph. J'oublie tout, je sors quand vient le samedi soir. Autour les gens dehors ne font que me parler toi. J'ai du mal à croire que c'est la fin de l'histoire. Je m'enivre, mais bon tranquille. Au réveil le moral est dans un sale état. Je réalise des choses qu'hier je ne voyais pas. Aujourd'hui j'ai le blues quand j'écoute Aretha Franklin, mais bon tranquille. Elle me disait tout va peiner, peiner. Pourquoi je l'ai laissé seule? Elle voulait m'apprendre à aimer, mais moi je n'apprends que de mes erreurs. J'ai passé la nuit à traîner et reste solo pendant des heures. J'te fais genre que tout va béné, béné. Mais bon, en vrai, j'ai le seum. J'ai le sentiment qu'elle m'évite. Au final, c'est tout ce que j'mérite. 3h du mat dans la street, mode automatique, j'fais des tours sur le périph. Y'a comme une ambiance électrique, j'crois que c'est gravé dans ma génétique. 3h du mat dans la street, mode automatique, j'fais des tours sur le périph.
On est de retour sur 50 degrés à l'ombre, l'émission de la transition écologique et sociale sur Radio Aviva. Chloé, avant la pause musicale, vous nous parliez un peu de votre organisation et comment toutes ces activités de tri se mettent en place. Mais nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce qui vous a motivé personnellement pour vous lancer dans cette aventure? Est-ce qu'il y a eu peut-être un déclic ou une rencontre qui vous a fait vous lancer concrètement dans ce projet-là?
En fait, je pense que les sujets liés à l'environnement et à la transition, c'est un peu comme un engrenage, c'est-à-dire que quand on se rend compte dans sa vie personnelle, voilà, de l'impact qu'on peut avoir en termes de consommation, par exemple, sur l'environnement, on commence à voilà à se renseigner et on se rend compte qu'en fait l'état de nos conditions voilà sur Terre sont quand même pas dingue et qu'elles vont se détériorer assez vite et que ce sont les personnes les plus défavorisées, les plus en difficulté qui vont le subir de plein fouet. Donc c'est une prise de conscience sur voilà l'état du monde et qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle qui m'a moi poussé à regarder qu'est-ce que je pouvais faire et rejoindre ou créer des projets à impact. J'ai travaillé 5 ans pour une entreprise de financement participatif. L'idée, c'était de permettre, par exemple, à des habitants d'une région de financer, participer au financement d'un parc photovoltaïque et qu'ils puissent bénéficier des retombées économiques de ce projet. Donc, j'ai toujours eu, dans le début de ma carrière, cette idée d'être utile et d'avoir une action voilà qui avait des impacts positifs. Notre travail c'est voilà 80% de notre temps, donc autant essayer de contribuer positivement. Et ensuite j'ai rencontré donc les Alchimistes, qui est en fait une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui a été créée en 2016 à Paris et qui ensuite s'est développée en rencontrant des entrepreneurs locaux. Donc par exemple, ça a commencé à Toulouse et maintenant il y a une vingtaine de villes qui existent sous la bannière Les Alchimistes. Et en fait, ce sont des entrepreneurs indépendants comme moi qui sont retrouvés autour de valeurs communes, c'est-à-dire il y a une absurdité, il y a quelque chose qu'on fait complètement à l'envers sur les déchets alimentaires, il faut remettre du sens. On a besoin de tout le monde pour faire ça. Et donc voilà, cette rencontre avec cette entreprise et mon envie moi de contribuer à quelque chose d'important et à impact pour l'environnement.
Et pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, qui savent peut-être pas ce que ça représente une entreprise sociale et solidaire, vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Oui, alors les principes de l'économie sociale et solidaire, c'est de dire on crée une entreprise, une activité économique, mais dont le but premier n'est pas le fait de faire des bénéfices. Le but, c'est pas de rémunérer les actionnaires en premier. Le but, c'est d'avoir une activité économique rentable qui poursuit d'abord un objectif environnemental et social. Donc nous, chez les Alchimistes, toutes les antennes alchimistes, il y a un objectif environnemental, c'est de remettre la matière organique dans les sols. Les déchets alimentaires, c'est une matière qui est très riche pour les sols. Il faut qu'on la mette dans les sols plutôt que en la brûlant ou en l'enfouissant, par exemple. Et l'autre objectif, c'est l'objectif social, c'est de créer des emplois locaux non délocalisables. Donc là, l'idée, c'est de créer vraiment des emplois qui ont du sens, qui permettent d'avoir un impact positif sur l'environnement. Et peut-être que dans l'activité, dans le secteur des déchets aujourd'hui, c'est des métiers qui sont assez cloisonnés, où les gens comprennent pas trop, on les accompagne pas forcément. Là, l'idée, c'est vraiment de proposer des emplois où on remet du sens dans les gestes du quotidien.
Effectivement, ça sort un peu du schéma classique de l'entreprise, comme on entend souvent parler. Et comment vous faites du coup, vous, dans vos relations de travail, de partenariat, pour amener le projet des alchimistes quand vous allez voir une collectivité qui réagit selon qui a une réflexion selon des codes, on va dire, très normés, qui travaille avec des entreprises sur des appels d'offres, comment ça se passe?
Oui, alors c'est vrai que le secteur du déchet, c'est un secteur où les entreprises historiques, c'est des entreprises qui sont dominantes. Si on prend sur notre territoire, on connaît tous les entreprises qui sont là depuis longtemps, qui interviennent sur pas uniquement le secteur des déchets potentiellement, et on est sur des ordres de grandeur qui sont tellement énormes qu'en fait, il faut avoir des moyens qui sont en regard de ces quantités. Si on parle de Montpellier, c'est des centaines de milliers de tonnes de déchets. Donc moi, Chloé, à mon échelle, je vais pas avoir l'ego de dire je vais trouver la solution pour ces centaines de milliers de tonnes. Par contre, nous, en tant qu'acteurs de l'économie sociale et solidaire, on peut venir proposer des alternatives, des solutions complémentaires. Et donc, justement, dans ces dispositifs d'appel d'offres, d'aller justement montrer à la collectivité qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a réussi à faire. Et donc, moi, quand j'ai commencé il y a 3 ans, j'étais à vélo dans le centre-ville de Montpellier à collecter les déchets de la fleuriste Suzanne aux yeux bleus, concrètement. Donc, j'avais quoi 3 kilos, 10 kilos de déchets par semaine. Aujourd'hui, on est une équipe de 9 personnes. On est sur un rythme où on collecte 1000 tonnes de déchets alimentaires par an, sachant qu'aujourd'hui, les déchets alimentaires qui sont triés et collectés, c'est autour de 3000, 4000 tonnes. Donc nous, à 9 personnes en 3 ans, on a réussi à collecter et à capter un gisement de l'ordre de 20-25%. Donc on se dit que même en commençant petit, on peut avoir un vrai impact et aider les collectivités et les acteurs historiques à trouver des solutions et aller dans le bon sens.
Et sur ce parcours de l'implantation Montpellier, est-ce que vous avez rencontré des obstacles dans les partenariats ou dans les moyens humains ou la logistique? Est-ce qui a été les plus grands défis que vous avez dû relever?
Alors les obstacles, on en a tous les jours. Déjà en termes d'entrepreneuriat, construire une équipe qui porte les valeurs du projet, qui s'implique et qui ont envie de développer l'entreprise, c'est pas évident parce que c'est un secteur du déchet, c'est pas un secteur hyper attractif clairement. Donc il y a un enjeu sur la partie recrutement, sur la partie fidélisation des employés. On va pas proposer les mêmes avantages évidemment que une entreprise qui est de taille beaucoup plus grande. Ensuite, on a aussi le regard des acteurs historiques, des collectivités. Forcément, on est nouveau, on est petit. Donc il y a beaucoup de crédibilité à construire et de confiance pour montrer qu'on est capable de faire les choses bien, de faire les choses de manière carrée, parce que dans le monde des déchets, pareil, il y a eu beaucoup de dérives sur des déchets qui étaient collectés finalement, qui étaient jetés sauvagement, dans des parcelles agricoles par exemple. Donc l'idée, c'est de se crédibiliser, d'être patient, d'être opportuniste, d'être pragmatique pour faire face à ces défis-là. Et après, il faut savoir aussi communiquer sur notre démarche pour que le plus grand nombre connaisse et ait envie de solliciter nos services.
Merci Chloé. Je crois qu'on a eu un bon tour de la question des déchets, de la gestion des déchets organiques à Montpellier. On a l'habitude de terminer cette interview par le conseil de l'invité. Donc, est-ce que vous voulez nous parler d'une association, d'un lieu, d'un magasin, d'un restaurant, ce que vous voulez qui mériterait d'être connu dans la région de Montpellier?
Vaste question, j'ai envie de citer tous les clients qui nous font confiance et qui se sont dit que les Alchimistes Languedoc étaient un partenaire pour améliorer leur impact et trier leurs déchets alimentaires. Je pense que c'est pas représentatif en termes de quantité, mais je trouve que les entrepreneurs du centre-ville de Montpellier et de manière générale, les entrepreneurs qui ont des petites structures, qui ont au quotidien des difficultés pour tenir leur équilibre financier et qui nous font confiance, ça veut dire qu'ils font un effort supplémentaire pour s'assurer que leurs déchets alimentaires soient bien valorisés. Je pense à la brasserie O3 à Casserie, avec eux ça a été un vrai sujet financièrement en face, ils avaient des offres concurrentes beaucoup plus bon marché, on va dire, et ils ont quand même voulu partir avec nous pour avoir un service qui correspondait à leurs valeurs. Et ça donne beaucoup d'espoir on voit qu'il y a l'aspect économique qui compte, c'est normal, mais il y a aussi l'impact et quel est le devenir de nos déchets concrètement.
Merci beaucoup Chloé pour cet échange. On se retrouve très bientôt dans l'émission 50 degrés à l'ombre pour parler de transition écologique et sociale en Occitanie. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
C'est une ville qui porte résolument la transition écologique.
Je voudrais savoir qu'est-ce que vous entendez par écologie.
Moi, ça m'inquiète pas plus que ça, le réchauffement climatique, parce que je suis pas écolo.
C'était 50 degrés à l'ombre, la transition écologique en Occitanie sur Radio Aviva.
C'est l'été sur Radio Aviva.
Écoutez Radio Aviva partout, tout le temps. Sur la route, à la maison ou au travail, sur notre site radio-aviva.com, sur l'application gratuite pour smartphones et tablettes, sur les box, les télés et enceintes connectées en demandant « Je veux écouter Radio Aviva ». Et désormais, profitez aussi de Radio Aviva en DAB+, à Perpignan, la radio numérique disponible sur la nouvelle génération de récepteurs radio et dans votre voiture. La météo dans l'Hérault.
Bonsoir à tous, c'est une belle soirée qui vous attend dans l'Hérault. Note 23 degrés à Saint-André-de-Sangonis et 24 à Lunel. On attend un pic de chaleur de 23 degrés durant la nuit à Montpellier. Demain dimanche, le soleil brillera sur tout le territoire. Il fera 25 degrés le matin à Saint-Mathieu-de-Tréviers et 30 pour l'après-midi. Pensez à votre bouteille d'eau et passez une très belle soirée sur Radio Aviva.
C'est l'été sur Radio Aviva.
Paradise, put up a parking lot. Shoo.
l'été sur Radio Aviva.
Chers amis, bienvenue dans Chemin de Femmes, à la rencontre de femmes passionnées, engagées, humanistes, des femmes qui font bouger la société, nous encouragent parfois à explorer de nouvelles voies et aussi à avancer sur nos propres chemins. Aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Marion Coutarel. Alors Marion, vous êtes comédienne et metteuse en scène. Vous avez cofondé en 2000 le Théâtre de la Remise à Montpellier avec un collectif d'acteurs, d'actrices, de scénographes et de musiciens. Vous faites également partie du projet Magdalena, un réseau international dédié au théâtre et aux arts vivants créé par des femmes. Bonjour Marion.
Bonjour.
Alors,
chemin de femmes, chemin de femmes, elles s'engagent et font bouger la société. Alors, suivez-les avec Colline Erlemann.
C'est longtemps, donc j'étais à l'école primaire. Moi, j'étais une petite fille plutôt introvertie. Et j'ai fait un atelier théâtre, donc j'étais en CM2 avec Simone Raton, qui était... Moi, je suis des Cévennes, un petit village à côté des Cévennes. Et Simone Raton, c'était une militante, une passionnée. Et je me suis retrouvée sur scène, donc dans un mélange de vulnérabilité, de mise à nu, de panique. Mais ce moment-là m'a donné de la force, quelque part. Et ce paradoxe m'a jamais quittée, en fait.
Ça vous a jamais quittée?
Non.
Vous avez su à ce moment-là que c'était ça que vous
alors,
vouliez faire?
Alors, non, je me suis pas dit je deviendrai actrice ou je travaillerai dans l'art. Ou... Je me suis pas dit ça, mais en tout cas, cette puissance-là ou cet éveil-là, voilà, ça date de là.
Ça date de là. Et en fait, je m'aperçois que beaucoup de personnes qui vont sur scène ont au départ été plutôt timides ou avait quelque chose à exprimer.
Oui, parce que je crois que ça a à voir avec une sensibilité un peu particulière qui des fois fait qu'on peut se sentir un peu à la marge, pas forcément entendu, ou oui, peut-être il y a quelque chose de là. Et après, c'est les expériences traversées qui font que ça nous met sur le chemin, pour le coup, de la création et de l'art.
Et alors, comment vous avez été sur ce chemin? Parce que c'est assez particulier, votre forme de théâtre. Quand vous parlez d'une forme d'expression de plateau, que vous passez plutôt par le corps, souvent, que par le texte... Qui vous a initié à ça ou est-ce que c'est vraiment une volonté personnelle?
Oui, en fait, c'est... Donc moi, j'ai fait des études qui n'avaient rien à voir avec des études théâtrales. Mais pendant ces études, très vite, j'ai été rattrapée par le théâtre. On a créé un festival international de théâtre, c'était à Nancy. Et j'ai rencontré un metteur en scène, Xavier Gernet, qui m'a formée au théâtre d'improvisation et au théâtre ce qu'on appelle d'action physique. C'est-à-dire, c'est pas de la chorégraphie, mais c'est comment une façon de prendre un verre d'eau, comment on peut modifier les paramètres, le rythme et tout ça, et comment
et
ça va...
Et ça ne s'apparente pas au mime non plus, je crois.
Non, c'est quelque chose de très particulier, c'est un langage scénique, en fait. Et pour creuser ça, je suis partie... à Holstebro au Danemark, suivre les enseignements de Lodin Théâtrette, qui travaille beaucoup à partir de cette méthode-là. Et ça m'a donné envie encore d'approfondir et de créer ma compagnie et de, en quelque part, faire de l'auto-formation. Donc, on a fait comme ça avec le collectif, différents stages. On est allé aussi en Italie, enfin. Et on a pioché comme ça plein de savoir-faire qu'on a mêlé pour nous créer notre propre langage au plateau, en fait.
Oui, vous l'avez dit, le chemin n'a pas été direct, puisque vous êtes passé par une école de commerce quand
tout
même.
À fait. Tout à fait.
Ça n'a rien à voir.
Oui, et au sortir de l'école, déjà pendant l'école, j'étais beaucoup plus animée par le théâtre que par la finance. Et à la fin de l'école, j'ai créé ma compagnie, puis du coup, j'ai jamais œuvré avec mon diplôme.
Ça vous a apporté quelque chose quand même?
Je pense que... Alors après, j'étais vraiment en rejet de l'enseignement. Hein. J'étais sur ma promotion, on était 4 amis, dont une aujourd'hui est chorégraphe, l'autre est fonctionnaire à la SNCF. Enfin vraiment, on s'est un peu trouvés. Mais je crois quand même que pour le coup, quand même une certaine... Peut-être plus la prépa, finalement, une certaine façon de travailler, de rapport à l'effort, à monter des projets, à aller au bout de... Voilà, peut-être plus cette énergie-là, je dirais.
Cette pression aussi, où il faut...
Ouais, peut-être plus ça. Mais après, pas du tout
l'esprit école de commerce, ça j'étais plutôt en rejet total.
En rejet, ouais. D'accord. Et comment vous définissez alors votre forme d'expression aujourd'hui?
Alors, il y a une phrase d'Annie Lebrun que j'aime beaucoup, qui est, donc je vais vous la dire parce que je l'ai apprise tellement, qui définit un peu ce qui serait mon rapport à l'art, c'est s'arracher à l'ordre des choses pour revenir de loin, rapporter la forme palpitante de ce qui n'en a pas encore. Pas facile à comprendre forcément,
wow.
mais c'est cette idée en fait que...
Un silence.
C'est ça, c'est cette idée qu'il n'y a pas de... En tout cas, je travaille beaucoup à partir d'improvisation, de matière, et il n'y a pas de présupposés établis. Donc je travaille beaucoup à partir des corps, des actrices, des acteurs, pour laisser surgir l'inconscient, le subconscient, et donner corps à ça. Après, bien sûr, je peux avoir en support de la matière textuelle, des romans, enfin tout ça, mais c'est là où se passe l'écriture de plateau, c'est-à-dire entre l'écriture qu'on va faire à la table et sur scène, donner des, voilà, de la nourriture comme ça pour susciter l'imaginaire des acteurs et des actrices.
Alors les auditeurs ne vous voient pas, mais moi quand je vous regarde faire tous ces gestes, j'ai l'impression d'une sculptrice qui va sculpter ses corps et cette expression pour réaliser une œuvre.
Bah, c'est sûr qu'il y a quand même un petit côté chef d'orchestre hein, dans la posture de metteur ou metteuse en scène. C'est sûr, on est là pour que tout s'agence, quoi.
Et qu'est-ce qui vous plaît plus, metteuse en scène ou comédienne?
Alors, j'ai jamais choisi. Non, mais j'ai beaucoup d'amis metteuses en scène qui très vite ont dit oh, non, mais moi je peux plus jouer. Moi, j'aime les deux en fait. Je trouve que ça se complète. Et dans certaines créations, je fais les deux. C'est-à-dire que là, avec ma collègue amie Julie Benegmos et sa compagnie, la compagnie Libre Cours, je suis en co-écriture, co-mise en scène, et je suis aussi actrice.
Oui, vous arrivez à faire les deux dans le même...
Sur des projets sur spécifiques, des projets... ça peut, oui.
Oui, mm-hmm. Oui, oui.
En tout cas, je ne choisis pas, oui.
Vous ne choisissez pas, il n'y a rien que vous préférez.
non, vraiment. Oui, puis je crois que avoir traversé et traversé encore aujourd'hui le métier d'actrice me permet de diriger les acteurs et les actrices aussi, en fait, puisque je sais comment ça se,
et ça jamais se passe à l'intérieur. Jamais la tentation du cinéma
Et non. J'adore aller au cinéma, j'adore regarder les films, mais non. C'est un autre... oui, puis ça c'est pas... Je n'ai pas rencontré ça...
Oui, avec tous les studios qu'on a en ce moment.
Et oui, je sais, mais ouais, ouais, peut-être un jour, hein, peut-être mais sait-on jamais. Mais en tout cas, ouais, j'ai bien à faire pour l'instant.
Bien. Ben, nous allons faire une pause musicale avec Janis Joplin, Get It While You Can.
Chemin de femme avec Colleen Herliman. Everybody's fighting on with each other. You got no one you can count on, baby. Not even your own brother. So if someone comes along, he gonna give you some love and affection. I'd take it while you can. Yeah.
nous nous retrouvons donc avec mon invitée Marion Coutarel, metteuse en scène et comédienne. Et nous venons d'écouter ce titre de Janis Joplin, qui veut dire « obtenez ce que vous pouvez pendant que vous pouvez », on va dire. Alors, le choix de ce titre.
Alors, ce titre, en fait, c'est un morceau de musique qu'on met à la toute fin de la pièce « Ismen » de Carole Fréchette. Donc, on a créé l'année dernière au Printemps des Comédiens, donc au Festival du Printemps des Comédiens au mois de juin, et qui est en tournée depuis avec la comédienne Mama Prasinos. Et pendant le processus d'écriture, donc on a eu la chance d'être au plus près de Carole Fréchette, qui est une autrice québécoise, dont la notoriété, voilà, elle a des pièces qui ont été traduites dans une vingtaine de pays. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui compte dans la dramaturgie théâtrale contemporaine. Et on a eu la chance d'être au plus près de l'écriture de cette pièce. Et elle nous a confié que pendant qu'elle écrivait, elle écoutait Janis Joplin. Et du coup, c'était un peu comme une évidence pour moi de la faire surgir à la fin de la pièce, comme la marque aussi de l'autrice et de ce qui l'avait inspiré à ce moment-là.
Oui. Et alors, vous avez beaucoup de projets, vous faites beaucoup de choses. Et parmi ces choses, j'aimerais qu'on parle... Vous avez eu une collaboration importante, peut-être vous l'avez toujours, avec La Bulle Bleue. Quelque part le faire aussi mettre en scène le handicap ou faire jouer des personnes en situation de handicap.
Oui. Donc La Bulle Bleue, c'est un ESAT artistique, un établissement. Alors avant c'était les CAT, Centres d'accompagnement par le travail. Et il y en a 6 en France sur 1200 ESAT qui sont consacrés à d'autres métiers. Et j'ai eu la chance, donc il y a 10 ans, La Bulle Bleue a été créée, de faire partie de l'aventure, d'être au tout début de la création donc d'une compagnie professionnelle d'adultes en situation de handicap et de mettre en scène les spectacles de cette compagnie. Et depuis, je suis évidemment toujours en lien avec cette équipe que j'adore et ce lieu qui est vraiment un lieu important pour Montpellier, qui reçoit des artistes en résidence, qui a une programmation, enfin, c'est un lieu vraiment important.
Je crois qu'au départ, vous aviez été touchée de voir peut-être certaines personnes proches ou d'autres juste intervenir en playback.
Oui, en fait, c'était l'origine de ça. C'est, donc moi, j'ai un frère qui est déficient mental et j'étais allée le voir parce qu'il y avait une représentation pour Noël. Il faisait partie du groupe théâtre, voilà, de la structure, et le ils avaient tous ils étaient tous en playback, donc il y avait aucune réalité de jeu. Et j'étais très peinée, je pleurais comme ça. Puis on a eu une dispute avec mon père qui disait mais c'est bien, ils sont applaudis. Moi je disais mais c'est pas possible, en fait on peut pas les obliger à reproduire la réalité ou notre réalité. Et du coup mon père m'a dit t'as qu'à le faire toi. Et j'ai pris ça au mot et voilà, j'ai commencé à faire un atelier auprès de jeunes enfants. Au début c'était en IME, de jeunes enfants en difficulté mentale, et puis ça aussi ça m'a jamais quitté, quoi. Travailler avec la singularité des acteurs et des actrices, quoi.
Oui. C'est important, et puis c'est important pour eux d'avoir leur propre expression, j'imagine.
C'est des endroits de partage, en fait. Voilà. Moi, j'ai l'impression d'être parfaitement à ma place, et eux, elles aussi. Donc, la bulle bleue vraiment, vraiment permet ça. Oui. Et agite toutes les réflexions, parce que c'est pas si simple, en fait. On s'est beaucoup interrogé. Est-ce que la place du spectateur, de la spectatrice, est une place de voyeur? Quand on vient, est-ce qu'on vient voir le handicap sur scène? Est-ce qu'on vient voir de l'art?
On vient voir des artistes.
Oui, bien sûr.
J'ai participé à d'autres structures et j'ai eu le plaisir de voir des artistes aussi. Je voulais un autre de vos investissements, excusez-moi. C'est le projet Magdanella, ce réseau de femmes artistes de tout pays et que vous avez fait venir vous-même à Montpellier.
Oui, grâce à La Bulle Bleue, hein, parce que tout se recoupe en fait. Et en tant qu'artiste associée, j'ai eu une carte blanche pour ma dernière année d'association. Et j'ai dit, moi, pour ma carte blanche, au lieu de faire un spectacle, j'ai dit, on fait venir le réseau Magdalena à Montpellier. Donc, c'est un réseau qui existe depuis une petite quarantaine d'années maintenant, à l'initiative de femmes actrices européennes qui ont fait le constat que c'était compliqué pour elles en tant que femmes de défendre leur propre projet. Elles étaient comédiennes pour des compagnies gérées par des hommes. Et elles ont fait un festival, l'une à Cardiff, l'autre en Italie, l'autre au Danemark et tout ça. Et elles se sont invitées, donc de façon complètement artisanale au début. Aujourd'hui, c'est un rhizome où il y a eu des événements Magdalena dans une cinquantaine de pays dans le monde, hein, en Inde, à Taïwan, beaucoup en Amérique latine. Le réseau est beaucoup, beaucoup représenté en Amérique latine. Et l'idée, c'est vraiment par la pratique artistique de s'entraider, de transmettre, évidemment de lutter pour plus d'égalité dans des contextes politiques qui sont très différents. Donc c'est aussi écouter les luttes et donner la parole à des femmes qui l'ont pas forcément.
Où est-ce qu'on en est en France, selon vous ?
Sur la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes.
Et dans votre domaine aussi.
Oui, moi je trouve que, effectivement, MeToo, tout ce mouvement de libération de la parole est vraiment une révolution. Et dans tous les domaines. Je veux dire, on le voit dans le sport, on le voit donc, au théâtre, au cinéma, mais vraiment dans absolument tous les domaines. Et ça, c'est très fort, c'est très puissant. Il y a quelque chose qui est à l'œuvre qui fait qu'il y a des choses... En tout cas, je le crois fermement, mais avec tout le chaos actuel, on ne sait pas, mais je crois fermement qu'il y a des choses où on ne pourra pas reculer, en fait. Il y a des acquis, quand même, qui sont forts. Et ça, j'y crois. Mais bien sûr, il y a encore beaucoup de travail, il y a encore beaucoup de déconstruction. Et voilà, faut rien lâcher.
Alors, qu'est-ce que vous dites aux jeunes générations que vous formez à l'université Paul Valéry ou ailleurs ?
Moi, je trouve que les jeunes, en tout cas à l'université, j'ai pas grand-chose à leur dire. Elles sont déjà bien dans la lutte et elles sont bien là. Après, c'est peut-être plus compliqué, voilà. C'est pas aussi simple partout, en fait. Là, c'est des options théâtre qui ont déjà une réflexion sur ces sujets-là et tout ça. Et je pense que de toute façon, il faut toujours, toujours en parler, toujours trouver d'autres façons d'attaquer le sujet et de démonter les stéréotypes, quoi.
Et l'art est une très bonne façon de le faire.
Oui, moi j'y crois.
Eh ben, écoutez, Marion, tous mes remerciements pour votre présence aujourd'hui. Et puis, merci à Baptiste, à la technique. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine rencontre sur les chemins de femmes.
Merci.
Chemin de femmes, chemin de femmes. Elles s'engagent et font bouger la société. Suivez-les avec Colleen Herliman. De sortir, de danser, de s'amuser, de vous détendre.
Rejoignez le club Aviva et profitez de cadeaux et d'invitations tout au long de l'année. Danse, festival, théâtre, concert, Radio Aviva met à votre portée le meilleur des sorties.
Inscrivez-vous sur le site www.radio-aviva.com pour rejoindre le club.
Toutes ces pelles que je ramasse, ça me rappelle à ma place. 10 heures, tu m'as laissé tout seul du mauvais côté. 10 heures, j'ai pas la clé, tombé. 10 heures, même en été, la pluie ne m'a pas lâché. 10 heures, tu m'as laissé tomber. Tomber à la porte.
sur le 88. Vivez l'été.
On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me guigolambo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce, c'est la thune Rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, oui, voilà donc. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Bas les mains, bas les mains. Ça roule façon Aladdin. Oh les mains, sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Bas les mains. Ça roule ouais, façon Aladdin.
Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. Avance sur la piste, les yeux sont rivés sur toi. Les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma, 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 ma.
Ça paye comme jamais. Ça paye comme jamais. Ça paye comme jamais. Ça paye comme jamais.
Je contrôle la neuzo, apprécie mon parcours. Hende Katako, sale petit coquin des cocu. Quand elle m'a vu, elle t'a plaqué. Fais les gamos, pour deux crocos sur la chaussée. J'suis congolais, tu vois, j'veux dire. Hein, normatisé, maître Gimsma, convoitisé. Charlie Delta localisé. L'embilasso focalisé. Zappé comme Chacha, Chama. Dorénavant, j'fais des jaloux. J'avoue, je vis que pour la victoire, un messie. La concurrence à ma vessie. Le Bouzano et Hermès. Mais vite ton sac, j'vais la recette.
Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. Avance sur la piste, les yeux sont rivés sur toi. Les habits qui brillent, tels les mille et une nuits.